jusqu'à 19h. Cap Sport.
Du tennis et du ski au sommaire de ce Cap Sport. Rencontre d'abord avec un champion du tennis mondial. Il a été numéro 2 mondial à l'ATP en double. Il a remporté en novembre dernier la Coupe Davis avec la France et il est désormais établi dans le Jura. Le joueur tricolore Pierre-Hugues Herbert est notre invité en première partie d'émission. Et puis en seconde partie, nous nous focaliserons sur la Coupe du Monde de ski alpin. On discutera notamment avec Émilie Mumenthaler. Elle est notre envoyée spéciale sur les épreuves féminines de Lanzarote. Un rendez-vous majeur à 2 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, pour présenter Cap Sport, il est aussi habile, ski au pied que raquette à la main, et d'ailleurs également raquette au pied. Il sait tout faire, Marcel Neuenfender, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour commencer, du tennis, rencontre avec Pierre-Hugues Herbert.
Oui, ce n'est pas forcément le joueur de tennis qui occupe le haut de l'affiche sur le circuit mondial. Âgé de 26 ans, le Strasbourgeois est domicilié depuis 3 ans dans le canton du Jura. Il habite actuellement à Delémont. Matricule 74 en simple au classement de l'ATP, Pierre-Hugues Herbert est en priorité un spécialiste de double. Il en est fait gagner en double donc l'US Open et Wimbledon. Et fin 2016, il était numéro 2 mondial avant de rétrograder au 11e rang l'an dernier. La saison 2017 a donc été moins bonne, mais elle s'est clôturée par une victoire avec la France en finale de la Coupe Davis. Mathieu Schnaffner l'a rencontré hier à Delémont. Interview, Pierre-Hugues Herbert évoque tout d'abord ce fameux succès en Coupe Davis, un grand moment.
C'est certain que jouer une finale de Coupe Davis à domicile, à Lille, devant 25 000 personnes, c'est assez incroyable. Arriver à la gagner, à ramener ce trophée qui nous avait été chippé par les Suisses en 2014, au même endroit, voilà, ça a fait énormément plaisir. Et voilà, on est beaucoup de fierté, beaucoup de joie. C'était, je dirais, le plus beau moment de ma carrière. Donc voilà, beaucoup de très belles images.
Vous l'évoquiez, ce souvenir de 2014, la victoire de la Suisse à Lille sur votre terrain. On a travaillé là-dessus dans l'avant-match, sur cet aspect peut-être psychologique qui aurait pu enrayer un peu la marche de la France l'année passée.
Je pense forcément. Après, c'était une nouvelle équipe. Moi, je n'avais pas fait partie de cette équipe-là. On avait un nouveau staff aussi autour, mais ça a été mentionné. Je me rappelle, on était dans l'hôtel des Suisses, on a changé d'hôtel. On ne voulait pas le même résultat, donc on avait changé d'hôtel, on avait pris celui des Suisses. Bon, après, c'est certain que c'était pas la même équipe en face. Voilà, jouer en finale de Coupe Davis, une équipe avec Federer, Wawrinka, c'est vraiment pas évident, même si c'était un petit peu crêpé le chignon une semaine avant au Masters. Ils ont fait un week-end extraordinaire, même si Federer était arrivé avec un limbago et avait commencé doucement, on va dire, sur son premier match. Il est monté en puissance tout du long. Ils ont fait un double le samedi qui était extraordinaire. Donc voilà, c'était pas du tout la même rencontre, mais on avait forcément des souvenir et arriver à un petit peu conjurer le sort en gagnant cette finale à la maison, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Pour vous, gagner la Coupe Davis, qu'est-ce que ça représente dans votre carrière ?
Ça représente énormément de choses. En tout cas, en France, aujourd'hui, la Coupe Davis a une très très grande importance. On a grandi un petit peu avec. En tout cas, quand j'étais enfant, je regardais ça à la télé. Je prends l'exemple de mon partenaire de double, Nicolas Meunier, qui a eu envie de jouer au tennis avec cette victoire en 91 contre les États-Unis à Lyon. Donc c'est des émotions fortes déjà quand on est enfant. Donc c'est un rêve de pouvoir la jouer quand on est enfant. Et après, forcément, quand on est joueur, c'est l'objectif final, et arriver à avoir ce trophée à la maison, là, il est dans mon appartement, dans le salon, c'est sûr que c'est extraordinaire, c'est une grande fierté.
C'est un objectif qu'on place avant une victoire en Grand Chelem ?
Je n'irai pas jusque-là, je pense que ça a presque la même valeur. Après, c'est différent, on va dire que la Coupe Davis, c'est plus pour son pays, c'est plus pour les potes, c'est l'équipe, donc les émotions sont peut-être doublées, alors que le côté du Grand Chelem, c'est aussi un rêve extraordinaire, mais c'est dans la carrière individuelle. Je vais avoir du mal à vous dire gagner un Grand Chelem ou gagner la Coupe Davis, qu'est-ce qui est le plus important. Je pense que c'est deux choses extraordinaires. Bon, j'ai un peu vécu les deux en jouant doux, mais si j'arrive à faire ça en simple, c'est sûr que ça serait un rêve de venir réaliser, j'aurais réalisé tous mes rêves.
En plus, vous l'avez gagné, cette Coupe Davis, avec un homme, j'ai envie de dire, d'exception, que tout le monde connaît, que ce soit dans le milieu du tennis ou non, c'est Yannick Noah, qui était le capitaine de cette équipe de France. Bah, parlez-nous un peu de cet homme-là. On le présente souvent comme quelqu'un de rassembleur, qui arrive à tirer finalement le maximum des joueurs qu'il a à disposition. C'est aussi un peu ce que vous ressentez au sein de l'équipe.
Yannick Noah, c'est un personnage, c'est quelqu'un hors du commun. Il y a quelque chose qui sort de lui, je ne sais pas, comme des ondes, ou je ne sais pas, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un joueur qui, lui, a gagné un grand chelem, a gagné la Coupe Davis à 3 reprises en tant que capitaine. C'est quelqu'un qui est extrêmement rassembleur, c'est quelqu'un qui, effectivement, voilà, en qui on a une grande confiance, énormément de respect. Et aujourd'hui, voilà, pouvoir l'avoir en tant qu'un petit capitaine de notre équipe, c'est vrai que c'est une vraie fierté. C'est un très bon meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur de vous, et c'est une de ses grandes qualités.
Pour vous, maintenant, cette saison, il y a eu la victoire en Coupe Davis, il y a eu un début de saison qui n'a pas forcément répondu à vos attentes, notamment du côté de Melbourne. Mais la suite, quels objectifs vous vous êtes fixés prioritairement ?
Donc là, je pars avec une nouvelle équipe sur cette année 2018. Je me suis fixé un petit peu les mêmes objectifs que l'année dernière. C'est un peu bizarre, mais je ne suis pas forcément content de mon année 2017. Ça a été une année extraordinaire puisqu'on a gagné la Coupe Davis, mais sur l'aspect personnel, voilà, j'avais pas forcément réalisé mes objectifs, et cette année, voilà, j'aimerais bien gagner mon premier tournoi ATP en simple. Voilà, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 en mars. L'objectif, voilà, va être un petit peu plus le simple. C'est, en tout cas, c'est le moment de performer en simple. Et donc, voilà, arriver à rentrer dans le top 50 serait extraordinaire. Faire une deuxième semaine de Grand Chelem serait extraordinaire. Voilà, progresser tout simplement dans mon jeu. Voilà, ce sont des objectifs, et après, ben, on a une deuxième campagne qui va commencer à Albertville le week-end prochain. Si on peut confirmer notre titre cette année avec l'équipe de Coupe Davis, ça serait extraordinaire.
On voit pas mal de surprises, en tout cas pour le grand public, sur l'Open d'Australie qui est gentiment en train de se terminer. Quand on est dans le milieu, on est aussi surpris de voir des parcours comme Edmund, comme le sud-coréen Yeon aussi.
C'est assez surprenant parce que pendant un paquet d'années, voilà, le tennis a été dominé quasiment par 4 ou 5 joueurs. On peut dire 4, même si Stan est arrivé un petit peu, c'est peut-être un des premiers d'ailleurs à avoir un petit peu changé la donne, on va dire, en gagnant ces 3 grands chelems. Mais voilà, il y avait Federer, Nadal, Djokovic, Murray qui se retrouvaient quasiment dans chaque demi-finale de Grand Chelem. Voilà, il y a eu Cilic aussi qui a une fois réussi à gagner à l'US Open. Mais là, depuis le milieu d'année dernière, fin d'année dernière, il y a énormément de surprises. Il y a eu Dimitrov qui a très bien joué en fin d'année, qui a réussi à gagner le Masters. Il y a eu Rafa et Roach qui sont revenus un petit peu. On les enterrait quasiment il y a 2-3 ans, qui sont revenus et qui ont tout gagné. Et il y a des nouvelles têtes effectivement qui arrivent. Alors je suis un peu déçu que la mienne ne soit pas apparue encore en simple, mais effectivement un Edmund, un Chung, de toute façon aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui jouent extrêmement bien au tennis. Il y a des surprises. Après on n'est pas à l'abri de revoir dans 6 mois tous les 4 en demi-finale d'un grand chelem.
Il y a aussi presque un début de polémique qui est né dans cet Open d'Australie. Raphaël Nadal l'a souligné après son abandon. C'est les blessures. Les top joueurs sont de plus en plus blessés. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans le monde du tennis aujourd'hui pour lutter la contre, ou finalement c'est naturel d'être blessé dans ce milieu-là ?
Forcément, les années sont longues, les tournois s'enchaînent, il y a des tournois quasiment toutes les semaines. En plus, le jeu est devenu de plus en plus physique, il y a de plus en plus de bons joueurs, donc il faut s'engager encore plus. Après, je pense que ce qui joue aussi là-dedans, c'est au niveau de l'âge. Aujourd'hui, les joueurs ont pris un petit peu, j'ai pas envie de dire un coup de vieux parce que c'est beaucoup trop fort, mais forcément, ils ont plus 22, 23, 24 ans. Aujourd'hui, un Nadal, effectivement, il a 30 ans, il est encore extrêmement jeune, mais pour un joueur de tennis, c'est un peu plus vieux, un peu plus âgé, donc on s'expose à plus de blessures. Après, ce qui est certain, c'est que voilà, le circuit, il y a quasiment des tournois toutes les semaines. Il y a une grosse concurrence, donc il faut y aller, il faut aller sur le terrain. Et forcément, ça peut amener à des blessures, mais comme dans tout sport.
Un petit mot, comme vous êtes désormais résident suisse, bah, sur nos deux têtes d'affiche, Roger Federer et Stan Wawrinka, est-ce que déjà vous avez des contacts peut-être un peu privilégiés avec ces deux joueurs-là sur le circuit ?
J'ai pas forcément des contacts privilégiés par rapport à certains joueurs, mais c'est deux joueurs qui sont extrêmement gentils, ou en tout cas extrêmement polis, avec qui on a de temps en temps des discussions qui sont plutôt intéressées. Moi, je suis un grand fan depuis mon plus jeune âge de Roger, bien sûr, et j'avais été extrêmement enchanté de voir l'intérêt qu'il pouvait porter à certaines. Je m'étais entraîné avec lui, voilà, il avait été extrêmement gentil. Stan, je me suis entraîné avec lui en Australie, justement. Il revient de blessure. Il était, je pense, déjà extrêmement content d'avoir pu jouer son premier tour et son deuxième tour. C'est deux grands champions, des personnes qui forcent le respect par leur niveau de tennis et aussi leur qualité d'homme en dehors. Aujourd'hui, vous avez la chance, aujourd'hui, la Suisse, d'avoir deux grands champions comme ça dans votre pays.
De voir un Roger Federer encore au plus haut niveau à 36 ans, c'est une surprise ou finalement, quand on est dans le milieu, ça ne surprend pas tellement quand on le côtoie ?
Il est surprenant et il est forcément, on ne peut pas ne pas être surpris. Il est impressionnant par sa qualité de tennis. Aujourd'hui, effectivement, il joue un tennis incroyable. Il joue un niveau de jeu incroyable. Il prend la balle de plus en plus tôt. Il est encore extrêmement rapide sur le terrain. Il se déplace. C'est magnifique. On va le voir jouer. Techniquement, c'est difficile de faire mieux. C'est extrêmement beau. Donc, il repousse les limites de ce sport. C'est très souvent comme ça. Les très grands champions arrivent à amener autre chose. Aujourd'hui, à 35 ans, il est quasiment à son meilleur niveau. Quand on voit les chiffres, je crois qu'il est à plus de 40 demi-finales en Grand Chelem, ce qui est irréel. On a encore de la chance aujourd'hui dans ce sport d'avoir des joueurs tels Federer, tels Nadal, qui sont des légendes vivantes et qui jouent encore et qui apportent énormément au tennis.
Alors, si on a la chance de vous avoir à l'interview aujourd'hui, c'est que depuis 3 ans désormais, vous êtes établi dans le Jura, depuis une année les papiers à Delémont. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait, comment ça se fait qu'on retrouve un joueur de tennis professionnel qui a été numéro 2 mondial du double, 11e joueur mondial du double aujourd'hui, établi dans le Jura.
J'ai été pendant 2 ans un escargot. J'habitais la commune de Develier. Ensuite, j'ai déménagé à Delémont. Maintenant, je suis depuis un peu plus d'un an. Il faut dire que je suis originaire de Strasbourg, de l'Alsace, donc de pas forcément trop loin. Et je me suis donc rapproché de cette région grâce à ma sœur qui aujourd'hui y est implantée depuis un paquet d'années. Presque 10 ans, voire plus. Donc, c'est un peu elle qui m'a fait découvrir cette région. Bon, il y a eu forcément un aspect peut-être un petit peu plus financier, on va pas se mentir, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'être installé ici. Je suis très heureux de pouvoir revenir ici un peu dans le calme jurassien après les semaines sur les tournois qui sont fatigantes. Ça me permet de revenir ici, de profiter de l'air frais, de la nature, profiter aussi un peu de ma famille qui est par ici. Donc, c'est un très bon compromis pour moi aujourd'hui d'habiter ici.
Mais c'est une région où on peut quand même trouver tout ce qu'il faut pour un joueur de tennis professionnel au niveau sportif pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. On vous voit un peu hocher la tête.
Non, c'est aujourd'hui à Delémont, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour s'entraîner, mais c'est quand je viens ici, c'est pas forcément pour ça. Quand je viens ici, j'essaie de faire du physique, mais pour le tennis, effectivement, il faut faire un peu de route, il faut aller du côté plutôt de Bienne, aller s'entraîner au centre national d'entraînement à Bienne. Comme je disais, c'est un bon compromis pour pouvoir passer du temps un peu en famille quand je suis off, en même temps me reposer et repartir avec beaucoup d'énergie sur les tournois.
Ça reste quand même des périodes très courtes sur l'année.
Comme Rafael Nadal s'est plaint qu'il y ait énormément de tournois, effectivement, la saison est longue. Les tournois, on les enchaîne. Et à part s'il y a une blessure, on est forcément beaucoup sur la route. Et donc, on voyage énormément, donc on est très peu à la maison.
C'était donc Pierre-Hugues Herbert, le joueur de tennis français domicilié à Delémont, numéro 2 mondial en double en 2016 et vainqueur de la Coupe Davis avec la France en novembre dernier.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Et c'est parti pour la deuxième partie d'émission. On va parler de ski alpin, mais pas uniquement. On va également s'écarter un peu des pistes balisées pour parler des disciplines dérivées du ski. Mais Marcel, d'abord, les épreuves de Lanzarote, il s'en est passé des choses aujourd'hui.
Et oui, un combiné alpin féminin s'est tenu aujourd'hui à Lanzarote. Un petit mot sur le résultat. On le rappelle, il a été gagné par Wendy Holdener, la championne du monde de la discipline. Pour la petite histoire, les autres Suisses sont 8e Denise Feyerhaven, 9e Miguel Gizin et 12e, Lara Goute. Deux autres courses féminines d'ailleurs se tiennent au cours de la station Grisone. Un slalom géant demain et un slalom spécial dimanche. Émilie Mumenthaler est notre envoyée spéciale à Lanzarote. Nous l'avons en direct au téléphone. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Marcel.
Alors Émilie, un petit mot, quel enseignement faut-il tirer au terme de ce combiné alpin ? Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire à ce propos ?
Je pense tout d'abord qu'il faut retenir cette victoire à de Wendy Holdener, qui était favorite au départ, puisque Michaela Schifrin s'est pris un jour de congé aujourd'hui. Elle a fait une très bonne manche de Super G. Donc tout le monde l'attendait après pour le slalom avec sa quatrième place. Et elle se montrait très très solide en reléguant ses deux premières dauphines à plus d'une seconde et demie. Et puis ensuite, côté Suisse, il y a une petite déception quand même avec Michelle Guisin, qui est vice-championne du monde de la discipline et qui a fini que 9e aujourd'hui. Et elle qui est toujours très, très loquace dans l'air d'arriver à une interview très sympathique. Elle était vraiment déçue de sa performance.
En clair, elle faisait la tête, quoi.
Elle nous a répondu, elle était très, très, très sympa, mais c'est vrai qu'on sentait qu'elle n'avait pas envie de s'attarder.
Alors, ce combiné alpin, apparemment, c'est une discipline qui est très controversée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Bon, moi, j'ai posé la question aux skieuses, Wendy Holdener et Michelle Guisin notamment, qui, elles, regrettent cette situation où on trouve de moins en moins de combinés alpins en Coupe du Monde. Pour elles, c'est vraiment une discipline qui met en valeur les skieuses les plus complètes, celles qui n'ont pas peur, celles qui font de la descente, et enfin celles qui sont bonnes en technique avec le slalom. Après, le ski, il n'échappe pas au marketing sportif, si on peut dire. Maintenant, au calendrier, on met des événements comme les City Events, ces slaloms parallèles. Il y en a eu un à Oslo en décembre, il y en a un la semaine prochaine à Stockholm, qui sont pas toujours très bien organisés, qui sont pas toujours très équitables. Il y a toujours une voie de slalom qui est plus avantageuse que l'autre. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas forcément en faveur du ski, à mon avis.
Émilie, précisément, quand même, vous êtes à l'Ensoraide. Vous avez été conquise par ce combiné alpin aujourd'hui. Vous avez passé un bon moment.
Oui, moi j'ai passé un bon moment et surtout, comme il n'y a pas de descente au programme ce week-end, on avait vraiment des filles qui étaient là pour le combiner et on n'a pas des descendeuses qui sont venues troubler lors de départ notamment.
Alors, en autre mot, Émilie, les Jeux Olympiques se rapprochent à grands pas. Ils débuteront dans 2 semaines en Corée du Sud, c'est bientôt là. On a l'impression qu'ils font déjà de l'ombre aux courses actuelles comme à l'Ensoraide. Est-ce que dans votre entourage, dans l'entourage des skieuses, ce thème olympique, on en parle déjà, on en discute ?
Oui, alors surtout du côté des journalistes, hein, ça revient souvent dans les questions qu'on pose aux athlètes. Après, du côté des skieuses, elles disent ne pas encore y penser, c'est notamment le cas de Wendy Holdener, Michelle Guisin ou Mélanie Meillard qui disent se concentrer sur la course qui vient, qu'elles prennent course après course. Michelle Guisin a même dit qu'elle y penserait une fois qu'elle serait dans l'avion pour la Corée du Sud. Après, c'est peut-être aussi un moyen de s'enlever de la pression. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Lara Gout assurer en combiné pour obtenir sa place pour Pyeongchang et également à Bondossard pour la course olympique. Et puis si Michaela Schifrin et Sofia Goggia ont fait l'impasse aujourd'hui, c'est certainement pour se reposer en vue de ce rendez-vous. Je ne pense pas qu'elles auraient manqué une course de Coupe du Monde au mois de décembre, par exemple. Et puis finalement, on retrouve Lindsey Vonn 4e. Donc c'est pas un hasard. L'Américaine a fait le déplacement dans les Grisons juste pour un combiné.
Enfin, c'est aussi des fois comme tout sportif, hein, match après match. Voilà, c'est une formule qu'on aime bien, une formule consacrée qui fait sourire d'ailleurs Yannick Frossard. Un dernier mot à propos de médailles olympiques, justement. Les perspectives de médailles sont bien réelles pour le ski alpin féminin, dans les disciplines techniques, puisque c'est de cela qu'on parle ce week-end. Il y a Wendy Holdener, puis Wendy Holdener.
Oui, on va commencer avec le combiné. Donc, il y a Wendy Holdener et Michelle Guisin sont championnes du monde et vice-championnes du monde de la discipline. Donc, Michelle Guisin, un peu moins de réussite aujourd'hui, mais je pense qu'il faut toujours compter dessus. Après, en slalom, ce serait clairement une déception hein, si Wendy Holdener ne ramenait pas une médaille. Et Mélanie Meillard, pourquoi pas un diplôme, hein, la jeune Valaisanne. Par contre, en géant, ça paraît plus compliqué pour les Suissesses, même si Wendy Holdener a fait de gros progrès dans cette discipline avec 4 top 10 cet hiver. Et puis après, les Jeux Olympiques, on sait que c'est une course d'un jour et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un sens comme dans l'autre.
Absolument, et puis on se réjouit bien sûr de suivre ça. Et puis à propos de médailles, justement, on évoque toujours les perspectives de breloques pour le ski alpin. On néglige souvent d'évoquer les disciplines annexes. Le ski acrobatique, le halfpipe, le slopestyle, le ski cross, les bosses, le ski suisse peut prétendre à une kyrielle de récompenses dans ces disciplines. Des disciplines qui restent toutefois des disciplines de niche. Exemple, dans l'arc jurassien, elles ne sont pas pratiquées. Il n'existe par exemple pas de structure pour les relèves, comme l'explique Jérôme Ducommun, chef du Giron jurassien de ski, c'est le coup de fil de Noémie Renvet.
Il y a quelques années, nous avions une équipe freestyle et nous avons proposé de développer ce mouvement freestyle auprès de nos ski clubs, également auprès des jeunes. Nous avions commencé un processus de développement également de sport-études pour cette discipline-là. Mais malheureusement, face au manque de demande en fait des clubs et manque de demande aussi des jeunes, nous avons mis de côté cette discipline pour un petit moment. Également aussi parce qu'il n'était pas tellement réalisable de monter une équipe avec peu d'infrastructures liées au freestyle, notamment un soutien parc présent dans nos montagnes.
L'infrastructure, c'est vraiment un coût important pour les domaines skiables, parce que justement, construire, entretenir un halfpipe ou bien acheter des barres de slide, c'est un gros investissement quand même.
Oui, surtout un halfpipe, il y en a de moins en moins, même dans les Alpes, ça représente vraiment quelque chose d'important. Mais pour nous, le gros problème, c'est qu'il faut beaucoup de neige pour pouvoir construire ces modules, à la fois pour faire des sauts, des big air, ou même un pipe. Et puis malheureusement, dans notre région, on est trop exposé au manque de neige ou à des périodes sans neige. Donc pour les installations, c'est clair que c'est des coûts et des dépenses qui, des fois, ne sont pas possibles au cours d'une saison. Donc on ne peut pas garantir une infrastructure dans nos stations.
Est-ce qu'en comparaison avec le ski alpin, c'est vraiment un sport de niche?
Oui, totalement, parce que déjà, ça attire beaucoup, beaucoup moins de jeunes dans la compétition. Ça attire des fois pas mal de jeunes dans les parcs, mais pour après faire le pas d'aller dans le domaine de la compétition et de participer à des contests, on voit que la fréquentation est beaucoup plus basse. Et puis également, dû aux infrastructures, parce que dès que vous commencez d'avoir un certain niveau, vous recherchez à avoir des infrastructures toujours plus hautes, toujours plus longues. Et puis, c'est ce qu'on trouve pas forcément dans notre région. On trouve dans notre région des petits parcs, des initiations pour les enfants. Dans les écoles de ski, les gens essayent de faire de l'initiation freestyle. Mais après, pour un niveau plus élevé, c'est difficile de trouver des infrastructures adéquates.
Du coup, le ski freestyle, il se développe où en Suisse? D'où viennent les freestylers qu'on voit à la télé après?
Alors, les freestylers, ils viennent, je pense, un petit peu de partout, parce qu'au début, on peut faire de l'initiation, mais après, ils viennent principalement de régions comme par exemple en Suisse romande, dans la région de Thion, les Colons, qui ont un grand parc et qui propose aussi différentes sortes d'activités. Et il y a aussi en Suisse allemande, notamment à Lax, qui est surtout pour le snowboard, un peu la mecque du snowboard freestyle et ski freestyle, où là, il y a vraiment des infrastructures tant en été avec des salles à disposition qu'en hiver avec des halfpipes et puis vraiment de grosses infrastructures nécessaires. À Engelberg également, où le centre national freestyle est présent, il y a aussi des infrastructures adéquates. Et après, les jeunes soit se déplacent dans ces endroits-là ou alors viennent de ces endroits-là à la base.
Émilie, on revient vers vous, hein, on reparlera freestyle ultérieurement parce que, avant tout, l'Enseraide, ce n'est pas terminé. Il y a demain un slalom géant. Alors, comment entrevoyez-vous cette course, peut-être dans le camp suisse?
Alors, dans le camp suisse, on l'a dit, Wendy Holdener a fait de gros progrès cette saison. Elle a confié qu'elle était repartie de zéro avec son entraîneur dans cette discipline. Et faire une fois un podium en géant, c'est gentiment ses objectifs après 4 top 10. Mélanie Meillard a, elle aussi, un bon coup à jouer pour intégrer le top 10 sur une piste qu'elle connaît puisqu'elle s'y est entraînée récemment et qui lui convient selon elle puisqu'elle est assez raide. Et puis on gardera aussi un œil sur la Ragoute qui est en manque de confiance en géant. Elle n'a pas pu se préparer comme il fallait cet été parce qu'elle revenait de blessure. Elle reste sur une 26e place mardi à Kronplatz. Mais c'est clair qu'au chenil, les manches de slalom de géant, ça peut lui faire que du bien. Après, en géant, il y a vraiment trois filles cette saison qui se taillent la part du lion. C'est l'Allemand Victor Rebensburg, l'Américaine Michaela Schifrin et la Française Tessa Worley, qui est tenante du globe de la discipline. Et les autres sont quand même assez derrière.
Merci, Émilie. Alors, ne fêtez pas trop l'Enseraide. On sait ce que c'est la presqu'île, ou plutôt, bon travail quand même, hein, dans la station Grisonne. On se réjouit d'ores et déjà de vous retrouver dans nos prochains bulletins d'information. Au revoir.
Merci, Marcel. Au revoir.
On conclut là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Cap Sport. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, très bon week-end.
Au revoir.